Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
En avant les jeunes, place au témoignage des femmes, le pape François continue de bousculer les habitudes et de revigorer les fidèles. Au cours de sa deuxième audience générale, il a rappelé qu'être chrétien voulait dire affronter la vie de tous les jours avec confiance et courage, sortir pour porter la lumière du Christ, compte rendu dès le début de ce magazine. À Gaza, une loi promulguée par le Hamas fait peur surtout aux chrétiens. Toutes les écoles devront procéder à une stricte séparation des filles et des garçons de plus de 9 ans. Vous entendrez dans cette émission le responsable des écoles catholiques de Palestine. De l'arme de poing aux avions et navires de guerre en passant par les missiles, un traité sur tous les transferts internationaux des armes classiques a été adopté à l'ONU. Le Saint-Siège aurait voulu un texte encore plus fort. Il s'efforcera par le biais de sa diplomatie d'agir auprès des États. Deuxième audience générale du nouveau pontificat et nouveau tour de Jeep sous les vivas des fidèles pour le pape François place Saint-Pierre ce mercredi matin. 30 000 personnes, dont 10 000 milanais en pèlerinage, ont assisté à cette audience. Dans son discours entièrement en italien et dont les résumés en plusieurs langues ont été lus par des collaborateurs, le pape François a repris le cycle des catéchèses sur l'année de la foi entamé par Benoît XVI. Le nouvel évêque de Rome s'est particulièrement attardé sur la résurrection. Il a insisté, et ce n'est pas fréquent, sur le rôle primordial, fondamental des femmes dans la compréhension et la transmission de la foi chrétienne. Elles ont été les premières à croire à la résurrection. Le compte-rendu de Marie Duhamel.
Les apostoles font plus fatica à credere. Les donnes, non.
Les disciples ont du mal à croire, mais pas les femmes. Devant le tombeau vide, Pierre s'arrête. Thomas doit lui toucher de ses mains pour croire. Mais ce n'est pas le cas des femmes. À la différence des apôtres, explique le pape, les femmes ont su, face à la tombe vide, croire à la résurrection. Ce sont les premiers témoins de la résurrection du Christ.
Sono le donne. Les premiers testimonies.
Poussées par l'amour, elles y croient et tout de suite transmettent la nouvelle. Elles ne la gardent pas pour elles.
Non lo tengono per sé, lo trasmettono.
Dans la loi judaïque, à l'époque de Jésus, les femmes n'étaient pas, raconte le pape, considérées comme des témoins crédibles. Et pourtant, souligne François, dans l'Évangile, elles ont un rôle primordial et fondamental.
Un rôle primario, fondamental.
Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que Dieu ne choisit pas selon des critères humains. Pour lui, c'est le cœur qui compte. Or, explique le pape, les femmes n'ont pas peur d'aimer Dieu. Dans l'Église, souligne-t-il, les femmes ont eu et ont encore un rôle particulier pour ouvrir les portes du Seigneur, pour le suivre, communiquer son visage. Car le regard de la foi a toujours besoin du regard profond et simple de l'amour.
Et questo è bello. Et questo. È un po' la missione delle mamme, delle donne.
C'est beau, s'est exclamé le pape, c'est un peu la mission des femmes, des mamans, de donner ce témoignage à leurs enfants, à leurs petits-enfants.
Que
Jésus est vivant, que la résurrection du Christ est notre force et le trésor le plus précieux puisqu'il ouvre à l'espérance la plus grande, à la certitude que le mal, le péché et la mort peuvent être vaincus.
Mamme e donne, avanti con questa testimonianza.
Vous les mamans, les femmes, continuez avec ce témoignage. Et si le pape exhorte les femmes à poursuivre la transmission de ce trésor, de cette lumière, il invite tous les fidèles à avoir le courage de sortir, mot-clé, pour annoncer la joie de la résurrection dans leur lieu de vie. Enfin, avec l'Écriture, l'Eucharistie, les autres sacrements et la charité, il les encourage continuellement à nourrir leur foi.
Parmi les quelques 30 000 fidèles venus participer à cette rencontre, il y avait beaucoup de jeunes. Toujours à l'aise et chaleureux, le pape François les a invités à porter au monde l'espérance de l'Évangile. En avant les jeunes, a-t-il lancé, car le monde est un peu vieilli du fait des guerres. Les fidèles ne doivent pas garder pour eux la joie d'être chrétiens, leur trésor le plus précieux, la certitude de la résurrection. Ils doivent la transmettre au monde, que les signes de mort laissent la place aux signes de vie, a-t-il dit. Le Saint-Père a particulièrement salué les jeunes Libanais qui ont préparé les méditations du chemin de croix au Colisée. De Depuis son élection, le pape François a plusieurs fois fait référence au diable lors de ses homélies, catéchèses et angélus. Dès sa première messe, au lendemain de son élection, il avait notamment déclaré « Celui qui ne prie pas le Seigneur prie le diable », citant l'écrivain Léon Blois, mais aussi « Quand on ne confesse pas Jésus-Christ, on confesse la mondanité du diable, la mondanité du démon ». Il est revenu sur ce thème devant les cardinaux avant que ceux-ci ne se séparent à l'issue du conclave. Il ne faut jamais céder au pessimisme, à l'amertume que le diable offre chaque jour. Ces constantes références au diable interpellent les pays occidentaux où la figure du malin n'est plus si souvent utilisée. Mais il ne faut pas oublier que le nouveau pape n'est pas européen mais argentin et que cela peut peut-être expliquer certaines choses. Le père Michel Anquetil, prêtre du diocèse de Coutances en France, vit depuis plus de 30 ans en Argentine et il officie dans le diocèse de Viedma, en Patagonie, dans l'état de Rio Negro. Il connaît bien la culture argentine et l'église locale et il avoue qu'il n'a même pas noté ses références au malin, tant il y est maintenant habitué.
Nous vivons ici dans un continent qui est très marqué par les injustices, par les inégalités. Et si le latino-américain est profondément croyant et croyant en Dieu, en même temps, ici au moins, là où je vis, la plupart des croyants ont conscience que l'esprit du mal existe. Et c'est vrai qu'il existe, on peut le constater, le monde à travers les guerres, les inégalités et tout ce que l'homme peut provoquer en négatif. Et je crois que si ici, dans l'Amérique latine, on croit très fort en Dieu, beaucoup croient plus dans le Jésus crucifié, plus qu'en la résurrection. Ceci, attention, je parle d'une religiosité populaire, mais cela n'exclut absolument pas la résurrection dans la part de nos communautés. Je crois que beaucoup de misères, les inégalités, les injustices, ce qui fait souffrir le peuple, très souvent provient de l'égoïsme, provient de structures qui ne sont pas adaptées. Et ici, on peut penser que l'esprit du mal agit dans ceux qui ont le pouvoir de décision.
De ce fait, en culturel, du coup, on peut comprendre les constantes références au diable qu'a faites jusqu'alors le pape François.
Moi, je ne l'ai pas noté dans ses discours. Je crois que, comme Argentin, on croit très fort en l'esprit du bien et on constate aussi que l'esprit du mal agit en nous et autour de nous si on le laisse agir. Et le monde est très souvent marqué par beaucoup de signes négatifs. Si on lit n'importe quel journal en première page et on veut souligner ce qui est signe de vie et signe de mort, très souvent les signes négatifs sont beaucoup plus à la première page que les signes d'espérance. C'est pour ça qu'il a un discours qui me paraît très important de réaffirmer l'espérance que nous devons transmettre au monde, parce que c'est un monde qui est souvent marqué par des signes de mort, par l'esprit du mal.
Vous, en tant que Français, qui connaissez donc les deux aspects, les deux cultures, est-ce que c'est une chose qui vous a frappé en arrivant? Est-ce que c'est vraiment un trait de caractère typique de l'Argentine et de l'Amérique latine? Ou bien c'est également quelque chose qui marque nos sociétés occidentales, mais qu'on aurait peut-être tendance à oublier?
En Amérique latine, l'homme est profondément religieux, mais d'une religiosité populaire, une religiosité populaire où l'esprit du mal est présent, avec aussi l'esprit du bien. Et la grande mission qui est baptisée dans nos communautés, c'est de pouvoir discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Comme l'homme de la rue en Europe est très sécularisé, je pense que ces références-là ne sont pas aussi voyantes.
Des propos recueillis par Xavier Sartre. Mardi soir, vers 19h, après la fermeture de la basilique Saint-Pierre, le pape François est allé se recueillir sur le tombeau de Jean-Paul II, dont on commémorait le 8e anniversaire de la mort. Le Saint-Père était accompagné de l'archiprêtre de la basilique Saint-Pierre, le cardinal Angelo Comastri, et de son secrétaire personnel, Mgr Alfred Xuereb. Il est resté longtemps à genoux dans la chapelle Saint-Sébastien, où Jean-Paul II est enseveli, puis il s'est brièvement recueilli devant les tombes de Jean XXIII et de Saint-Pie X. Lundi soir, le pape François avait déjà visité la tombe de Saint-Pierre et la crypte de la basilique. C'est l'expression de la profonde continuité spirituelle du ministère pétrinien que le nouvel évêque de Rome vit intensément, a expliqué le bureau de presse du Saint-Siège, comme le prouvent également ses fréquentes conversations téléphoniques avec Benoît XVI. Presque tous les matins, le nouveau pontife célèbre simplement la messe en présence d'employés de différents secteurs du Vatican, dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe qu'il n'a pas quittée depuis son élection. « Le Saint-Siège s'est félicité de l'adoption par les Nations Unies d'un traité international sur le commerce des armes conventionnelles, le premier du genre, malgré l'abstention de quelques gros exportateurs comme la Russie et la Chine. C'est le premier texte international majeur sur le désarmement depuis l'adoption du traité sur l'interdiction des essais nucléaires de 1996. Et c'est la plus grande avancée du droit international depuis le traité de Rome instituant la Cour pénale internationale. Xavier Sartre.
On aurait pu faire davantage, mais c'est déjà un pas dans la bonne direction. Cela fait des années que le Saint-Siège appelle de ses voeux un texte crédible et efficace, capable d'assurer la protection des personnes. Dans une première réaction, le Conseil pontifical Justice et Paix souligne qu'il faudrait idéalement construire la paix au niveau politique. Mais il reconnaît que ce traité est en accord avec la doctrine sociale de l'Église. La balle est maintenant dans le camp de chaque État. La diplomatie du Saint-Siège sera fortement impliquée, assure-t-on au Vatican. Ce vote est un symbole fort pour l'ONU dont certains fustigent l'impuissance. C'est aussi la victoire de la société civile mobilisée depuis des années, comme l'organisation chrétienne CCFD Terre Solidaire qui se félicite de ce résultat. En Syrie, dans le Sahel, en RDC, souligne ainsi Zobel Béhalal du CCFD, le calvaire des populations est aussi la conséquence d'un contrôle lacunaire sur la circulation irresponsable des armes au niveau mondial. Selon lui, les dictateurs qui utilisent les armes contre leur population, mais également les marchands d'armes, ont enfin une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Satisfaction également du côté d'Oxfam, pour qui ce texte envoie un message clair aux dictateurs, ils ne pourront plus agir en toute impunité.
Le principe du traité est que chaque pays évalue avant toute transaction si les armes vendues risquent d'être utilisées pour contourner un embargo international, commettre des violations graves des droits de l'homme ou être détournées au profit de terroristes ou de criminels. Si c'est le cas, la transaction ne doit pas être autorisée. Pour que le texte entre en vigueur, il lui faut désormais être ratifié par 50 États, ce qui pourrait prendre un an ou deux. La loi proposée par le Hamas a été promulguée ce lundi 1er avril. Dès la rentrée prochaine, toutes les écoles de la bande de Gaza devront procéder à une stricte séparation des filles et des garçons de plus de 9 ans. Par ailleurs, aucun homme ne sera plus autorisé à donner des cours à des jeunes filles, ni une femme à des garçons. De fait, la plupart des établissements de la bande de Gaza sont déjà non mixtes. Mais cette nouvelle législation s'appliquera également aux écoles chrétiennes et à celles de l'ONU, où filles et garçons suivaient les cours ensemble jusqu'au lycée. Plusieurs militantes féministes ont dénoncé une politique ouvertement ségrégationniste et une islamisation de la société toujours plus évidente. Le Hamas s'en défend, prétendant agir dans ce cas précis selon les valeurs palestiniennes traditionnelles. Écoutez la réaction inquiète du père Faisal Ijazine, responsable des écoles catholiques en Palestine pour le patriarcat latin de Jérusalem.
Nous avons 5 écoles chrétiennes, des écoles de l'ONU aussi qui sont privées là. Et l'année dernière, en avril, ils ont lancé l'idée de faire cette séparation, que les écoles ne soient pas mixtes. On a protesté, on a écrit une lettre au Premier ministre Haniyeh, et il a dit « Ok, on va vous permettre de continuer comme vous avez fait, parce que c'est une tradition, c'est une culture dans nos écoles. Nous, on est là depuis 150 ans dans la région, les écoles paroissiales chrétiennes. Et c'est toujours... mixte. Nos écoles sont ouvertes pour tous et ce sont des écoles qui aident à respecter l'autre en connaissant l'enfant qui connaît la fille dès qu'il est petit, le garçon quand il connaît la fille et étudie avec elle, il a plus de respect pour elle, il la connaît bien. Donc pour nous, cette loi ne doit pas exister.
Est-ce que vous avez reçu une quelconque confirmation officielle de la part du Hamas?
On n'a rien reçu jusqu'à maintenant. Officiellement du ministère de l'Éducation. Parce que d'habitude, ils nous envoient une lettre avec toutes les lois pour les écoles. Jusqu'à un moment, on n'a rien reçu. Donc, on ne peut rien dire, mais on peut dire que si vraiment ils vont imposer cette loi dans nos écoles, on est tenté de fermer les écoles. Parce que nos écoles sont au service de la société. On est là pour servir les familles, on ne prend rien de l'État. Donc, on est prêt à fermer nos écoles et à ouvrir une petite école pour les enfants chrétiens qui sont là. Vous savez bien qu'à Gaza, il y a 2000 chrétiens seulement et 1,5 million de musulmans. Et nos écoles, si sont ouvertes, les écoles chrétiennes, si sont ouvertes, ce n'est pas seulement pour nos chrétiens, mais c'est aussi pour soit pour les musulmans, soit pour les chrétiens. Par exemple, nous avons 2 écoles à Gaza chrétienne du patriarcat latin. Nous avons 972 élèves, dont 858 musulmans et seulement 114 chrétiens. Donc on est ouvert pour eux. Et c'est les parents qui veulent ça. Nous, on ne fait pas une distinction entre chrétiens et musulmans. Ce sont des enfants qui ont droit à l'éducation, qui ont droit à vivre et à vivre avec dignité.
Depuis quelque temps déjà, on dénonce la volonté évidente d'islamisation de la bande de Gaza de la part du Hamas. Cette loi va toujours dans le même sens. Est-ce que vous êtes inquiet pour la suite ?
On est inquiet parce que Hamas, d'habitude, on a vu que l'année dernière et les années précédentes, les ministres de Hamas avaient un respect pour l'Église et pour les chrétiens qui sont là et pour les prêtres. Mais s'ils commencent à toucher vraiment des choses réelles comme ça, on a peur qu'après, ça sera plus difficile. Ils doivent avoir une ouverture, que la société n'est pas une société islamique. Ils ne peuvent pas imposer la loi islamique dans la société. Ils doivent savoir qu'il y a des chrétiens qui se trouvent dans le pays. Ils ont droit à vivre. Ils ont droit à vivre dans leurs conditions de vie, dans leur culture. Et les musulmans qui viennent étudier dans nos écoles, on respecte leur religion, on respecte leur culture. Mais aussi, il faut comprendre que vivre dans une même école, chrétiens et musulmans, ça aide beaucoup la société à s'ouvrir. Ce que nous voulons de nos écoles, c'est une ouverture à l'autre, c'est le respect de l'autre.
Des propos recueillis par Manuela à Fidji. La situation reste précaire dans la capitale centrafricaine alors que le nouveau gouvernement parle d'une reprise de l'activité administrative et économique. À Bangui, de nombreux magasins et banques restent fermés dans une atmosphère très tendue avec la présence d'hommes armés dans les rues. Dans le reste du pays, la peur règne parmi la population. C'est ce que nous raconte une des religieuses de l'Institut des Clarisses de Bouard.
À Bangui, il y a aussi beaucoup de l'insécurité. Par exemple, ma grande sœur, ils sont allés chez elle. Ils ont cassé son portail, ils sont rentrés dans sa maison, ils ont détruit sa maison, ils ont ramassé tout ce qui est dans sa maison. Donc elle a tout perdu. Heureusement qu'elle est partie en courant, en fuite avec son mari, et ils sont restés en vie. Donc leur maison est pillée et détruite. Parce qu'ils ont dit qu'ils font les règlements de compte des personnes aisées. Donc ils vont dans leur maison, ils ramassent leurs biens, ils cassent leur maison, et là c'est vraiment dommage, ils ramassent aussi les voitures. Donc il y a beaucoup de personnes à Bangui qui ont perdu leurs biens et qui sont là abandonnées à eux-mêmes, quoi.
Est-ce que vous avez une idée de qui sont les personnes, les rebelles?
Ce sont des étrangers, ce ne sont pas des Centrafricains. Il y a très peu de Centrafricains qui sont dedans. Il y a des Soudanais, il y a des Tchadiens, et ils parlent seulement l'arabe. Ils ne parlent pas le français. Il y a très peu qui parlent le sango. Donc ça fait peur. Donc ce ne sont pas vraiment les gens du pays qui sont vraiment dans cette rébellion. Ce sont vraiment des étrangers. Et ils sont des musulmans.
Je vous signale avant de terminer cette émission que l'agenda du nouvel évêque de Rome se met en place. Le calendrier des prochaines célébrations liturgiques présidées par le pape François a été rendu public ce mercredi. Dimanche prochain à 17h30, le Saint-Père prendra officiellement possession au cours d'une messe de la basilique Saint-Jean de Latran, cathédrale de Rome, dont il est l'évêque. Le dimanche suivant, toujours à 17h30, il célébrera la messe en la basilique Saint-Paul hors les murs. Le dimanche 21, journée mondiale des vocations, il ordonnera des nouveaux prêtres au cours d'une messe en la basilique Saint-Pierre à partir de 9h30. Le 28 avril, au cours d'une messe à 10h sur la place Saint-Pierre, il administrera le sacrement de la confirmation. Et les dicastères de la curie romaine poursuivent leurs activités. Ainsi, la commission pontificale biblique tiendra sa session plénière annuelle du 8 au 12 avril. L'assemblée aura lieu à la maison Sainte-Marthe sous la présidence de Mgr Müller. Les participants achèveront leurs réflexions sur le thème « Inspiration et vérité de la Bible ». Depuis quelques années, la commission a décidé de se pencher sur la manière dont l'inspiration et la vérité s'expriment dans les différents livres de l'Écriture sainte. L'objectif est de favoriser l'accueil adéquat de la parole de Dieu par tous les fidèles. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet à l'adresse www.radiovaticana.va, sur notre page Facebook Radio Vatican en français et sur Twitter, ainsi que sur vos tablettes et smartphones grâce à notre application en français. Merci de nous avoir suivis.